Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Fréquence Étincelle, votre magazine scientifique et ludique qui vous est présenté par Magali Volpes
et Delphine Gomez.
Une émission spéciale pour ce mois de juin puisque nous vous proposons une excursion suisse d'une trentaine de minutes au cœur du plus important accélérateur de particules au monde, le LHC, comprenez Large Hadron Collider du CERN de Genève. Vous en avez peut-être entendu parler, le CERN, c'est l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire. Créée en 1954, c'est l'une des premières entreprises communes à l'échelle européenne, puisqu'elle regroupe pas moins de 20 États autour d'une recherche commune, la matière et les forces qui assurent sa cohésion. Les récents retards dans la mise en service de l'un de ces outils, le LHC, ont placé le CERN dans les pages des quotidiens généralistes de ces dernières semaines. Étonnant, nous direz-vous, que la physique des particules fasse l'objet de tant d'attention. C'est parce que les expériences menées au cœur du LHC risquent fort de changer notre vision de l'univers. Car figurez-vous que du haut de ses 27 km de circonférence, le LHC devrait nous permettre de découvrir ce qui se cache au plus profond de la matière, bien en deçà des atomes, des électrons ou même des quartz. Grâce à lui, nous pourrions percer les mystères de l'antimatière, éprouver la théorie de la physique élémentaire des particules ou encore comprendre ce qu'est réellement la masse, car nous savons comment la mesurer, mais ne connaissons toujours pas sa nature. Le mois dernier, Magali Damoiseau, chargée de communication au Centre de physique des particules de Marseille, a convié Étincelle à visiter la tuyauterie souterraine de ce géant technologique qui rentrera en activité début 2008. Une aubaine pour vous, chers auditeurs de la Grenouille, puisque certaines zones du site franco-suisse ne seront bientôt plus accessibles au public. Micro en main, Magali vous a donc concocté une véritable odyssée sonore entrecoupée de témoignages de spécialistes. Un format différent, donc, vous l'aurez compris, pour cette émission exceptionnelle toute dédiée à l'accélérateur de particules du CERN à Genève. Une demi-heure bien remplie qui, une fois n'est pas coutume, débutera par les Chronicas Latinas de Pedro Lima, notre autre envoyé spécial en Argentine pour sa part. Fréquence d'étincelle, c'est parti!
Hola, buen día. Salut à toutes et à tous, chers amis et amis, auditrices et auditeurs de la lointaine France, direction le Costa Rica ou le CIRAD, organisme scientifique français spécialisé en agriculture des régions tropicales et subtropicales, a signé un accord de partenariat sur les systèmes agroforestiers, assurant localement un développement durable, et tout cela dans le respect de toutes les parties prenantes. Premier contrat de ce type signé par le CIRAD sur le continent sud-américain, il prévoit l'aide à la mise en place d'un dispositif d'amélioration des systèmes agroforestiers. Exemple concret, un agriculteur peut vendre au propriétaire d'un barrage hydroélectrique le service que rendent ses parcelles agroforestières sous réserve de ne pas couper les arbres, évitant ainsi l'érosion des sols pendant un nombre fixé d'années. Résultat, l'environnement du bassin versant est protégé, l'envasement du barrage par les sédiments issus de l'érosion est diminué. Les chercheurs du CIRAD, avec leurs collègues costaricains, s'appliqueront à quantifier, valoriser, développer les produits et les services liés aux cultures pérennes, comme le café ou le cacao. En partenariat avec tous les acteurs, des stratégies diversifiées de gestion des systèmes agroforestiers seront développées et adaptées à chaque contexte local. Un agriculteur peut ainsi souhaiter augmenter et diversifier le couvert forestier qui donne de l'ombrage à sa plantation de caféiers. Autant d'actions locales, en apparence anodines, mais qui assurent, si on les additionne toutes, le succès d'un développement agroforestier véritablement durable. Une information énergie à présent, passée relativement inaperçue sur le plan international, à l'heure où nos deux candidats à la présidence se chamaillaient sur l'EPR français. Il s'agit de l'inauguration, à proximité de Sydney en Australie, du premier réacteur nucléaire de construction argentine et fabriqué à l'étranger. Avec cet événement, l'Argentine entre dans le club fermé des nations capables de concevoir et surtout d'exporter des centrales nucléaires, un atout non négligeable pour ce pays qui dispose également de réserves considérables en pétrole et en gaz et à l'heure où toute la donne énergétique en Amérique latine est en train d'être rebattue. Énergie toujours, mais d'un tout autre type maintenant, avec cette info à placer résolument dans la rubrique extravagance. Vous vous souvenez tous de ce triste conflit des Malouines, un caillou perdu au large des côtes argentines, que les Anglais occupent depuis plus d'un siècle et que l'Argentine ne cesse de réclamer au Royaume-Uni. Eh bien, Croyez-le ou pas, des diplomates argentins ont récemment protesté au cours d'une conférence qui s'est tenue à Berlin sur le réchauffement climatique, contre le fait que la Grande-Bretagne comptabilise les émissions de méthane des vaches des îles Malouines dans son propre bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Incroyable. Les îles Malouines, comme on dit ici, nous reviennent de droit, et le méthane qu'émettent leurs vaches dans les gaz n'a donc rien à faire dans les émissions de la Grande-Bretagne, ont en substance déclaré les fiers diplomates argentins devant les regards incrédules des délégations internationales. Et oui, où vont se nicher les sentiments nationalistes, partagés d'ailleurs par nos amis anglais, puisque ces derniers ont catégoriquement refusé de céder le méthane des bovins malouins à leurs homologues argentins. Ces crónicas latinas touchent à leur fin. Portez-vous bien. Hasta luego.
Merci Pedro. Nous quittons maintenant l'Amérique du Sud pour la Suisse, où nous retrouvons Magali en reporter de choc et de charme, en plein cœur de l'accélérateur de particules du CERN.
L'histoire, en fait, pour nous, elle va commencer ici, parce que la collision, elle va avoir lieu à l'intérieur de ce détecteur, et c'est vraiment un bijou de technologie.
C'est une énergie phénoménale, concentrée dans un volume extrêmement grand.
C'est la plus grande installation cryogénique qui a jamais été faite.
C'est un gigantesque jeu de Mikado.
Chaque proton, tout seul, c'est l'équivalent en énergie cinétique d'un millième d'un moustique en vol.
Aujourd'hui, Étincelle vous emmène en visite guidée au cœur du plus grand accélérateur de particules du monde. C'est le CPPM, Centre de physique des particules de Marseille, qui est un laboratoire du CNRS et de l'Université de la Méditerranée, qui nous a invités à Genève, au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, où bientôt entrera en fonction le plus grand accélérateur du monde, le LHC, pour Large Hadron Collider. Le CPPM, ainsi que de nombreuses autres équipes de CNRS, de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, ou IN2P3, participent à la conception, la fabrication et à l'interprétation des données des expériences qui seront installées auprès de l'accélérateur. Cependant, la collaboration est mondiale, regroupant des chercheurs des États-Unis, d'Amérique latine, d'Asie ou encore du Japon. Nous vous proposons de suivre avec nous la visite que nous avons faite sous terre, à 100 mètres de profondeur, micro à la main, accompagnée de passionnés et passionnants physiciens spécialisés dans la physique des particules. Les accélérateurs de particules sont d'énormes instruments qui permettent de répondre à des questions de physique fondamentales et de faire progresser notre compréhension de l'univers. Par la suite, des applications sont envisageables dans le domaine médical ou de la physique des matériaux, par exemple. Celui de Genève, le LHC, fera s'accélérer des protons à une énergie jamais atteinte en laboratoire.
On fait des accélérateurs de plus en plus puissants qui donnent une énergie de plus en plus grande, parce que depuis Einstein, on sait qu'énergie et masse, c'est la même chose. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a des paquets de protons dans chaque sens qui sont accélérés dans le LHC, qui interagissent. Et à ce moment-là, au moment où ils interagissent, au moment où un proton et un autre proton rentrent en collision, une partie de leur énergie se transforme en masse et on crée de nouvelles particules. Et c'est ça qui nous intéresse.
Le physicien Emmanuel Monnier, du CPPM, que vous entendrez tout à l'heure, nous expliquait ce qui se passe à l'intérieur de l'accélérateur de particules d'une manière ludique. Imaginons que les physiciens du CERN souhaitent savoir ce qu'il y a à l'intérieur du moteur de la dernière Mercedes classe S. Ici, les protons. Pour ce faire, ils ont l'idée de propulser deux Mercedes l'une contre l'autre à toute vitesse. Lors du crash, tous les éléments du moteur sont propulsés à l'extérieur et on peut alors les examiner avec précision. Dans le LHC, remplacez tout simplement les Mercedes par des protons. Lors du crash des protons, on peut examiner les particules qui se désintègrent, quarks, muons, neutrinos, etc. Le LHC sera le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules du monde. L'énergie de collision sera de 14 TeV, ou Tera-Electron-Volt. Mais ça représente quoi, 14 TeV ? Pour réussir à comprendre la formidable puissance au sein de l'accélérateur, nous avons demandé à Roy Alexan, directeur du CPPM de Marseille, de nous expliquer plus simplement la quantité d'énergie qui circulera dans l'accélérateur.
Un proton tout seul, c'est l'équivalent en énergie cinétique de 1000 fois moins qu'un moustique en vol. Un proton tout seul, ce n'est pas grand-chose, en fin de compte, on pourrait se dire. Mais dans l'accélérateur vont circuler en permanence 4, 10 puissance 14 protons. Ça fait 400 milliards.
400 milliards.
400 000 milliards. 400 000 milliards.
De protons qui circulent dans l'anneau. Et chaque proton, tout seul, un proton tout seul, c'est l'équivalent en énergie cinétique d'un millième d'un moustique en vol.
D'accord.
Mais comme il y a beaucoup de protons, à l'arrivée, vous arrivez à 300 mégajoules. 300 mégajoules. Et c'est là que je refais mon analogie. 1000 kg de TNT, une tonne de TNT.
Les tubes d'accélérateur que vous avez vus, ils résisteraient 15 secondes.
C'est
le faisceau se précipiter dessus, c'est 15 secondes, ils sont
cassés.
Parce que c'est une énergie phénoménale, concentrée dans un volume extrêmement petit.
L'énergie qui circulera dans l'accélérateur représente donc une tonne de TNT, de quoi faire exploser 500 mètres carrés de bâtiment. Autant dire, sacrément puissant. Revenons à présent à l'utilité de l'expérience. Aujourd'hui, la physique des particules est expliquée grâce à ce qu'on appelle le modèle standard, élaboré dans les années 1970. Il rassemble toutes les connaissances théoriques sur les constituants élémentaires de la matière, les quarks, les électrons, les muons, les neutrinos, ainsi que leurs interactions. Alors, parfait le modèle standard ? J'en fais du CNRS IPNL de Lyon, nous explique la faiblesse du modèle.
Le modèle standard est parfait, on le mesure avec une très grande précision, mais il manque une brique fondamentale. On ne sait pas pourquoi les particules ont des masses si différentes les unes des autres. Ça, c'est expliqué par des théories qui font intervenir une nouvelle particule, une particule qu'on n'a pas encore mise en évidence, qu'on appelle le boson de Higgs. Pourquoi Higgs ? Parce qu'un théoricien anglais, Peter Higgs, a écrit la description de ce genre de phénomène. Et donc, le boson de Higgs est quelque chose qui nous manque. Il est possible, peu probable, qu'on ne le découvre pas. Auquel cas, il va falloir changer complètement notre façon d'écrire la masse, justement. Et donc, c'est une des recherches fondamentales du LHC, c'est de dire si oui ou non, le boson de Higgs existe, et si oui, quelle est sa masse. Si on trouve le Higgs, on ferme le modèle standard. Le modèle standard n'a plus beaucoup de points d'interrogation. Cependant, on pense que le modèle standard n'est pas le modèle ultime, que de la même façon que la mécanique classique n'est qu'un cas particulier de la mécanique quantique ou de la mécanique relativiste, de la même façon, le modèle standard devrait être compris dans un modèle un peu plus global. Et on espère bien trouver d'autres particules inattendues qui, elles, proviendraient d'un modèle au-delà du modèle standard.
Vous l'avez entendu, les physiciens sont à la recherche d'un des graals de la physique, le fameux boson de Higgs, le chaînon manquant du modèle standard. Bientôt, la physique expérimentale va donc être en avance sur la physique théorique, car les résultats des expériences auprès du LHC risquent d'amener un bouleversement des connaissances actuelles. Le LHC, en fait, regroupe 4 expériences. 2 généralistes, nommés Atlas et CMS, et 2 plus spécialisés, le LHCB et ALICE. Autour de l'accélérateur, situé dans un tunnel de 27 km de circonférence, 4 détecteurs y sont donc fixés comme 4 perles sur un bracelet. Chaque détecteur étant le siège d'une expérience unique. Commençons brièvement par les expériences CMS et Atlas.
CMS et Atlas sont des expériences qui ont le même but, trouver quelque chose, le Higgs, au-delà du modèle standard, mais avec des techniques différentes. Donc en fait, les deux expériences, qui sont ce qu'on appelle des expériences génériques, sont prêtes à observer n'importe quoi qui se passe quand deux protons de haute énergie se désintègrent, créent quelque chose. Ce quelque chose, quel qu'il soit, va être de courte durée de vie, donc lui-même, ce phénomène-là, on ne le voit pas, il se désintègre immédiatement. Et c'est les particules qui sont émises par la désintégration de ces phénomènes nouveaux qui apparaîtront dans nos détecteurs.
CMS et Atlas seraient alors des expériences identiques, puisque l'objet de leur recherche est le même. Quel est donc l'intérêt d'avoir réalisé deux expériences similaires ? Jean Fay répond à cette question.
les technologies sont différentes, et ça c'est important, parce que il y a des biais dans nos expériences, il y a des fonds qui imitent les phénomènes qu'on veut voir, et donc les biais vont être éliminés en comparant une expérience par rapport à une autre. Donc il est important d'avoir plusieurs expériences.
Et oui, il ne s'agit pas de voir un événement une fois. Il s'agit aussi qu'il soit reproductible et vérifiable pour qu'il soit scientifiquement correct.
Avant de rentrer plus dans le détail des expériences menées au sein de notre accélérateur de particules, nous vous proposons un petit intermède musical. C'est le titre « Valérie » de Mark Ronson and Amy Winehouse que nous allons maintenant écouter. Ne vous éloignez pas trop, on revient juste après.
Maintenant de descendre réellement au cœur d'une des expériences, celle du LHCb, dont l'objectif est entre autres de comprendre pourquoi l'univers est constitué exclusivement de matière, alors qu'à sa naissance, lors du Big Bang, matière et antimatière étaient présentes à parts égales. Depuis la surface, nous prenons un ascenseur qui descend à 100 mètres sous terre. Nous mettons des casques de sécurité et pénétrons dans un tunnel circulaire de 3 mètres de hauteur, dans lequel règne un silence impressionnant. la lumière est tamisée et seuls des vélos circulent. Dans quelques mois, cette partie-là du site sera totalement fermée et interdite. Nous pouvons presque toucher du doigt le tube à vide de l'accélérateur dans lequel passeront les protons à la vitesse de la lumière. Un tube de 15-20 cm de diamètre, entouré d'une machinerie de 1 mètre de diamètre par endroit.
Ici, on rentre dans un espace qui est l'espace de la machine, et c'est à cet endroit-là que la cryogénie se fait. Et actuellement, ils sont descendus dans des températures qui sont autour de 4 degrés Kelvin, et ils sont en train d'essayer de descendre à la température finale, qui est de 1,7 degrés Kelvin. Et donc, il y a de l'hélium qui circule maintenant froid dans toute cette machinerie. Ça, c'est l'octant, je pense, 1 à 7. C'est un octant qui est complet et qui est mis en froid actuellement. Et vous voyez, il y a 27 km comme ça. Et ces 27 km vont être équipés de différents éléments. Et si on va un peu plus loin, voilà ce que c'est que la machine. Il y a 27 km comme ça. Et on se déplace en vélo. Il faut des camions pour amener tout ça. Tout ça extrêmement positionné avec une très grande précision. Il y a un câblage qui est aussi faramineux. Énormément de procédures de sécurité qui doivent être appliquées pour être sûr que toutes les pièces marchent comme elles doivent être marchées. C'est la plus grande installation cryogénique qui a jamais été faite.
C'est Renaud Legac, physicien, directeur de recherche au CNRS et responsable du groupe LHCb au CPPM de Marseille, qui nous conduit ensuite au sein du détecteur, et pour commencer, dans une petite salle en béton d'une dizaine de mètres carrés.
L'histoire, en fait, pour nous, elle va commencer ici, parce que la collision, elle va avoir lieu à l'intérieur de ce détecteur. C'est le plus petit détecteur de LHCb, puisqu'il fait à peine un mètre, et c'est vraiment un bijou de technologie. C'est des détecteurs au silicium, qui vont descendre très proche du faisceau, qui vont être très proche du vide de la machine. Donc tout ça sont d'une installation qui va être sous vide. Et si vous voulez, les particules et les patterns qu'on recherche vont se trouver là. Et on va essayer de mesurer très précisément la position du vertex de collision et la position de ces vertex secondaires, de ces particules qui volent. Et si vous voulez, là, on travaille à des précisions qui sont de l'ordre du micron. Et après, les particules, elles continuent à voyager. Elles vont traverser l'ensemble de ce détecteur. Et on va pouvoir mesurer leur vitesse, identifier quelle est leur nature et toutes ces choses-là.
Juste après le lieu de la collision, on aperçoit le premier détecteur.
Au-dessus de nous, vous avez ce détecteur qui s'appelle le Reach. Et ici, vous voyez, on commence à mettre l'électronique, qui est l'électronique qui va permettre de lire les informations que nous donnent ces détecteurs. Et ensuite, toute l'information repart à travers ces câbles qui sont ici, à 80 mètres dans les baraques qui sont là-bas derrière.
Puis, nous continuons en passant par des passerelles exiguës qui entourent le détecteur pour s'approcher de l'aimant constitué de deux bobines de 27 tonnes chacune.
Ces grosses bobines que vous voyez sont les bobines de l'aimant. Donc le courant électrique passe à travers ces conducteurs en cuivre qui sont en fait dans une résine qui est de l'araldite. Et c'est ce passage de ce courant dans ces bobines qui crée un champ magnétique vertical.
Renaud Legac nous permet ensuite de descendre au milieu de l'installation entre les différentes parties de l'expérience qui sont encore en cours de montage. Nous ne pouvons être que trois, pris en sandwich entre deux murs de ferraille, fils électriques et autres matériels électroniques.
Donc vous voyez, on est entre deux détecteurs. Hein. Sur notre droite, il y a ce fameux Reach 2, et puis sur notre gauche, le Fresh Hour et les calorimètres. Et le tube que vous voyez là-haut, c'est là où va passer le faisceau.
Alors, ça passe au-dessus.
Ça passe voilà, au milieu du détecteur et les deux types de faisceaux vont passer. Là, vous voyez les gens qui sont en train de faire le câblage actuellement de ce détecteur, ce fresh hour. Vous voyez les conditions dans lesquelles on travaille. C'est des conditions dans des espaces qui sont extrêmement confinés et où la géométrie n'est pas facile. Quoi. Là, on est vraiment au cœur de la bête. Hein. Vous voyez les structures sur lesquelles sont construits en fait, ces énormes détecteurs. Et ces structures se déplacent sur des rails de façon à ce qu'on puisse ouvrir ou fermer le détecteur. Et si vous regardez là, vous avez donc un des calorimètres, qui est le calorimètre hadronique. Derrière vous, vous avez le calorimètre électromagnétique. Là, vous voyez ce détecteur qui est le pressure. Vous voyez la finesse de ce détecteur. C'est quelques centimètres à peine. Celui-là, il est beaucoup plus épais. Mais, donc il y a des choses très minces, il y a des choses très denses, etc. Et vous voyez derrière ce mur, ce premier mur en fer qui va permettre de, en derrière, détecter les murs. Et on revoit la chambre où passe le faisceau. Et au-dessus, vous voyez qu'il y a des échafaudages qui sont avec des gens qui sont en train de monter l'électronique qui est tout en haut. Un détecteur de physique des particules, c'est un objet qui est comme ça.
Et tout ça sera rapproché ou c'est
tout ça va être... Non, tout ça va se serrer, vraiment. Il y a à peine quelques millimètres d'espace entre les deux morceaux.
D'accord.
Et il y a des moments d'angoisse, parce qu'il y a des moments quand on ferme, quand on a ces détecteurs très chers, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est beaucoup de passion et beaucoup de temps, donc on est toujours très inquiet.
Le détecteur de vertex enregistre la trajectoire des particules. Le calorimètre mesure l'énergie des particules, puis d'autres détecteurs identifient les particules et mesurent leur trajectoire par rapport à la vitesse. Tout ceci donne lieu à une grande quantité d'informations à trier. Nous longeons donc ensuite la partie finale du détecteur, constituée des chambres à muons, pour arriver dans une petite salle dédiée justement à la collecte des informations.
Ici, toute l'électronique, toute l'information qui vient du détecteur arrive dans des câbles qui sont comme ça. Et toute cette information va être connectée à des cartes de cette nature-là qui vont en fait transformer ces signaux en une information qu'on peut envoyer sur un réseau Ethernet, en numérique. Souvent, ça arrive déjà en numérique, mais il y a du tri là qui est fait. Et si on va au bout, vous avez là où je pense un endroit où on va passer des jours et des jours et des nuits. C'est ici où on va installer les quatre processeurs. Et il va y avoir un énorme câblage qui va venir devant, parce qu'on amène une énorme quantité d'informations dans ces quatre bêtes.
Et là, le laboratoire de Marseille participe activement à cette partie-là de...
Ces quatre boîtes qui vont se venir celle-là, oui, on a l'entière responsabilité de ça. C'est-à-dire qu'on l'a conçu, on l'a développé, on l'a réalisé et on va le maintenir.
Sortons maintenant de notre visite du LHCB et envisageons à nouveau l'accélérateur dans son ensemble. Lorsqu'il sera fonctionnel, ce sera près de 40 millions de collisions par seconde qui auront lieu. Et après, que se passe-t-il ? Comment va-t-on voir si on a le X ou une autre nouvelle particule ? Jean Fay, du CNRS IPNL de Lyon, nous répond.
Il y a des collisions, la plupart du temps il ne se passe rien d'intéressant. Dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant, l'électronique prend une photo, recueille toute l'information sur tout le détecteur, et après on va reconstruire, y compris faire des dessins qui permettront de voir les différentes particules qui sont passées. On prend énormément d'événements, et après les physiciens font des programmes qui vont essayer de chercher parmi toute la botte de foin quelle est l'aiguille qui nous intéresse.
Toutes les photos d'événements parviennent donc au centre de calcul, dans un bâtiment à la surface de l'accélérateur. Avec 10 puissance 12 collisions enregistrées par an, soit 15 millions de gigaoctets, l'équivalent de 3 millions de DVD, c'est un véritable défi informatique que la grille de calcul LCG relève. Chaque espace de la visite, chaque expérience a son environnement sonore particulier. Mais quand on entre dans le centre de calcul, le bruit est là, vraiment assourdissant. Notre guide, Franck Gray, du département informatique, est obligé de particulièrement hausser la voix. Nous l'écoutons nous décrire la salle blanche des ordinateurs, rangés les uns à côté des autres, à perte de vue.
Là, vous êtes au cœur d'une ferme de PC de à peu près 3500 par ordinateur. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle en anglais des white box, des boîtes blanches, des ordinateurs tout à fait comme vous trouverez dans des magasins, Carrefour, etc. Donc, ce n'est pas un supra-ordinateur et je veux bien mettre le point sur ça. Il y a des supra-ordinateurs, c'est des grandes machines. Tous les processeurs sont bien connectés. Ici, c'est simplement des milliers de machines indépendantes. Et la raison pour laquelle on utilise cette solution, c'est que le problème, le calcul qu'on a, il est énorme, mais il peut être divisé en morceaux, chacun indépendant de l'autre. Et chaque morceau, c'est en fait une collision de particules, c'est une sorte d'image de résultat de la collision. Voilà. Et chacun va être analysé sur un processeur différent.
Le saviez-vous ? C'est au CERN qu'a été inventé le web. Eh oui, la science est un travail collectif, tributaire d'un libre accès à l'information. La recherche au CERN, c'est plus de 6500 chercheurs de 80 pays. Le partage mondial des informations est donc un enjeu vital. En 1990, Sir Timothy, chercheur au CERN, propose une nouvelle approche de la gestion des informations. Le World Wide Web était né. Là, l'objectif de la grille, c'est relier une quantité énorme d'ordinateurs de par le monde, comme s'ils fonctionnaient en un seul gros ordinateur unique. Toutes les données peuvent donc être partagées, et je pourrais par exemple utiliser le logiciel Lambda de mon collègue directement sur son ordinateur, sans même l'installer sur le mien. Frank Gray nous explique en détail le fonctionnement du réseau et débute en précisant le débit du traitement des données.
Donc on est arrivé à des débits de 1 gigaoctet par seconde en continu. Donc à cette vitesse-là, vous remplissez un DVD en 3-4 secondes. Alors, en fin de compte, c'est quoi la grille ? Donc c'est bien sûr ce complexe d'ordinateurs, de stockage, de réseau. Mais finalement, il y a un côté qui est important, c'est le logiciel qui va contrôler tout ça. Comme avec le web, il faut des standards, des protocoles, etc., qui derrière la scène assurent que le système est stable et est transparent. Donc tout ça, c'est une couche de logiciel qui s'appelle middleware en anglais, en français intergiciel, qui gère, c'est des tas de programmes sur des serveurs de part et d'autre dans le monde qui gèrent la façon par laquelle les chercheurs vont pouvoir accéder aux données pour que ça soit vraiment transparent. Donc ils gèrent aussi le côté sécurité pour assurer qu'une personne a le droit d'avoir accès aux données qu'elle demande, etc. C'est comme une coopérative agricole. Les chercheurs, les groupes de chercheurs, les instituts investissent dans du matériel qu'ils mettent sur la grille. En contrepartie, ils veulent avoir un accès à la grille. Donc il faut avoir un système de comptage pour voir qui a reçu quoi, qui a donné quoi. C'est vraiment comme une coopérative agricole. Donc ce n'est pas un système où il y a, disons, une puissance de calcul gratuite. Hein. Tout le monde a mis quelque chose, tout le monde va en retirer. Donc, par contre, ils vont retirer des choses qu'ils n'auraient pas pu avoir, des niveaux de puissance de calcul qu'ils n'auraient pas pu avoir eux-mêmes avec 10 PC tout seuls.
La conception de la grille est une petite révolution qui aura de nombreux impacts dans le monde du commerce et de la finance, ou encore dans le secteur médical. Cela pourra par exemple faciliter le diagnostic médical assisté par ordinateur ou simplifier les secours aux sinistrés grâce au partage planétaire des données. Notre visite audio touche bientôt à sa fin. Et malheureusement, nous n'avons pas pu visiter ensemble les 4 expériences de l'accélérateur. Néanmoins, que pouvons-nous retenir du LHC ? Les détecteurs du LHC, c'est d'abord un challenge, un défi qui dépasse l'entendement. Et c'est l'expérience d'Atlas qui illustre le mieux ce défi. Un énorme aimant est positionné dans une voûte souterraine de 35 mètres de haut. Un véritable exploit raconté par Emmanuel Monnier, chercheur du CPPM de Marseille et responsable de l'équipe Atlas Calorimétrie.
Ça, il a fallu faire vraiment des innovations de génie civil, et notamment pour construire la voûte qui permettait ensuite en dessous de construire la caverne. Parce que quand vous faites un tunnel, vous avez des voussoirs, au fur et à mesure que vous avancez. Là, il fallait creuser jusqu'au niveau où on voulait mettre la voûte, creuser sous la voûte et au fur et à mesure construire la voûte, la suspendre par des câbles. Une fois que la voûte était suspendue par des câbles, commencer à creuser en dessous, atteindre la profondeur maximum, construire des piliers et reposer la voûte. À partir de ce moment-là, on avait une caverne construite.
À l'intérieur de la voûte, on peut admirer une énorme bobine. Des aimants supraconducteurs qui courbent la trajectoire des particules chargées pour mesurer leur énergie.
C'est le plus gros cylindre contenant un champ magnétique de l'ordre de 0,5 Tesla, moi j'ai des chaussures de sécurité, quand on se promène là-dedans, il y a les pieds qui bougent.
Parce que les chaussures de sécurité, il y a du métal dedans. Donc le métal dans le champ magnétique, quand vous bougez, il est attiré, donc voilà.
Les détecteurs du LHC, c'est aussi un travail minutieux et de longue haleine.
Et vous voyez les plateformes qu'on a dû construire pour être capable d'installer ces champs, de les monter, de les positionner. Tout ça est connu, la position de tous ces objets est connue à mieux que le millimètre, partout. Et c'est vraiment un travail, je dirais, de fourmi. Et là, on a des collègues qui travaillent toute la journée dans ces ambiances-là. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile.
Enfin, les détecteurs du LHC, c'est la sensation lors de la visite,
d'une immense ruche où chacun a un rôle précis, original et indispensable.
C'est vraiment un travail d'équipe au niveau, donc on voit beaucoup de géomètres, là vous voyez les géomètres parce qu'il y a des placements très précis à faire, au niveau mécanique, au niveau informatique, au niveau de la cryogénie, tout ce qui est conduite de gaz, c'est aussi des choses, il y a vraiment c'est vraiment une collaboration, et c'est pas le fruit des physiciens, c'est le fruit de physiciens, de mécaniciens, d'électroniciens, d'informaticiens.
Un merveilleux travail d'équipe qui requiert de la passion et de la patience. Et voilà, notre parenthèse dans le monde de la physique des particules se termine. Et pour finir ce voyage au cœur de l'accélérateur, nous avons laissé le soin de conclure à Roy Alexan, directeur du CPPM de Marseille.
Pour mener à bien cette aventure, il aura fallu plus de 12 ans de prouesses technologiques. Pour bâtir l'accélérateur le plus puissant du monde, de 27 km de circonférence, comprenant 1600 aimants supraconducteurs refroidis à moins 271 degrés, et où 600 000 milliards de protons circulent. Des détecteurs, ces cathédrales dont on vous a parlé, bourrées de capteurs et d'électronique ultra rapide, capables de prendre 40 millions de photos numériques à la seconde. Et enfin, un réseau, une grille mondiale de calcul, regroupant à terme plus de 100 000 processeurs et stockant les données équivalent à 100 millions de CD. Mais au-delà de ces nombres, il aura fallu regrouper les cerveaux, les talents, les compétences de plusieurs milliers de chercheurs, ingénieurs, techniciens du monde entier venant de tous les continents, collaborant ensemble sans préjugés avec pour seul objectif la soif de connaissance et l'espoir de sonder l'infiniment petit afin de comprendre l'infiniment grand et percer les secrets de la matière à l'origine de notre univers.
Et voilà, Étincelle touche à sa fin. Nous espérons que vos regards se feront plus curieux à l'avenir lorsqu'ils se poseront sur la matière qui vous entoure, qu'elle soit plastique, biologique, synthétique ou même invisible. Et si l'idée de contribuer au succès des recherches scientifiques en participant aux grilles de calcul distant dont Magali vous a donné un exemple technologiquement innovant, sachez que c'est possible. Pas pour le LHC, mais d'autres projets scientifiques utilisent la puissance du calcul à distance. Vous pouvez ainsi télécharger sur vos PC des logiciels de calcul sans partage de données, non invasifs, qui se révèlent fort utiles sur des sites comme celui de la World Community Grid ou de Boeing France, site que nous déposerons à votre attention sur le site web de la Grenouille, www.grenouille888.org. Un grand merci à toute l'équipe du CERN pour son accueil et son travail colossal, à Miguel De Pereira qui a réalisé le dossier de l'émission, à Pedro Lima et son ubiquité radiophonique, ainsi qu'à toi Magali, éternelle amoureuse de la vie, de la nature et de la science sous toutes ses formes. Sans oublier celui sans qui rien ne serait possible, Bertrand Bruel, réalisateur de l'émission. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles infos scientifiques et insolites. Bon été à tous, et d'ici là, portez-vous bien.